Bon, je suis un petit peu désolé aussi parce que c'est un message qui est en deux parties. Donc la première partie a déjà eu lieu, donc c'est la deuxième partie. Il s'agissait de la lecture du livre de Daniel. Donc c'était le commencement. Donc on a commencé au chapitre, premier chapitre donc. Et puis une grande partie du deuxième. Et puis aujourd'hui on revient un peu sur le deuxième et puis à suivre en fait, hein. Voilà, donc pour ceux qui connaissent pas exactement le livre de Daniel, c'est l'histoire de quatre jeunes gens, dont Daniel, qui ont été déportés en l'an 600 avant Jésus-Christ, et puis qui sont des quatre personnes exceptionnelles. Ils rentrent au service du roi de Babylone, Nebuchadnezzar, et puis ils sont exceptionnels en intelligence, dans leur comportement, en sagesse. Donc je faisais remarquer donc que cette sagesse exceptionnelle n'était pas uniquement le fait du hasard, ni le fait seulement d'une grâce qu'ils avaient reçue de Dieu. C'était aussi une grâce, mais que ces hommes étaient exceptionnels en sagesse. Ils étaient extrêmement jeunes. Et ils étaient plus sages que les anciens, que les conseillers du roi. Et donc, ils avaient su vraiment se laisser transformer, malgré leur jeune âge. Ils avaient laissé vraiment Dieu transformer leur intelligence pour arriver à ce niveau-là. Voilà, donc je vais revenir un petit peu sur cette transformation de l'intelligence. Et puis après, on va voir aussi le premier rêve du roi Nébuchadnezzar, qui a eu des visions. Donc la dernière fois, on avait parlé un peu de cette vision, mais j'avais dit qu'effectivement, on passerait un peu dessus parce que l'explication va être un petit peu trop longue. Donc comme je vous avais dit qu'on reviendrait, donc je reviens dessus, on va avoir le temps de voir ça, je pense. Voilà. Donc, par quels moyens les garçons sont-ils arrivés à devenir des gens exceptionnels dans leur sagesse? Donc, on avait suivi une piste la dernière fois, c'était par la remise en question. En fait, ils vont à la rencontre de la pensée divine, parce que c'est une pensée qui est au-dessus de la pensée des hommes, en remettant en question leur propre pensée. Donc ils savent que l'homme est faillible, ils constatent leur faiblesse, et donc ils vont chercher la vérité à sa source, qu'ils trouvent, bien sûr, normalement tout le monde doit dire en cœur, dans la Bible, bien sûr. Voilà, ils vont chercher la sagesse de Dieu là où elle se trouve, dans la parole. Donc au premier chapitre du livre de Daniel, on voit aussi qu'ils sont des gens qui sont... qui pratiquent le jeûne, la prière, les bonnes actions qu'ils font, et puis bien sûr les mauvaises actions qu'ils ne font pas. Ils remettent en question leurs pensées, et bien sûr, on ne peut pas non plus passer au-dessus de la repentance. Et je fais une différence entre la remise en question et la repentance. C'est deux termes qui sont de la même famille en fait, hein. La remise en question, c'est par rapport, on va dire, c'est un état d'esprit, alors que la repentance, c'est par rapport à un péché qui est évident, un péché qui est visible. On va prendre l'exemple d'une personne, par exemple, qui vole, il fait quelque chose de mal, il sait très bien qu'il fait quelque chose de mal et il continue de le faire. Puis un jour, s'il est touché par la grâce de Dieu, il sait que il va être convaincu, et puis il va avoir cette conviction qu'il pèche, et donc il va s'arrêter. Sa repentance va avoir un fruit qui va être le fait qu'il arrête de pécher, en fait. Donc on va dire qu'il arrête de tomber. Et il y a aussi encore une grande différence avec la culpabilité, parce que la culpabilité, elle ne va pas porter de fruits. Là, il y a comme quelqu'un qui va tous les jours manger du chocolat et en se disant c'est pas bien de manger du chocolat, puis le lendemain il va remanger du chocolat. Bon, il va culpabiliser, mais il n'y aura aucun fruit. Idem pour quelqu'un qui fume, ou autre chose. Il va recommencer son addiction et il n'y aura pas une repentance, c'est juste la culpabilité, quoi. C'est l'accusateur, hein, qui accuse et puis qui porte pas de fruits. Voilà, alors que la remise en question, c'est une action pour grandir. C'est une sorte de, on va dire, de repentance constante. Constamment, on remet notre pensée en question parce que, voilà, on sait que la pensée de Dieu est au-dessus de notre pensée. Encore une fois, on sait qu'on est faillible, on sait que, voilà, l'être humain a toutes sortes de travers. Donc, on se dit, si on veut aller chercher la vérité, il faut aller là où il n'y a pas d'erreur possible. C'est un combat qui se situe au niveau de nos pensées et aussi au niveau des réflexes culturels. C'est extrêmement difficile parce que c'est pas quelque chose qu'on contrôle. Après, à ce stade, c'est bien important de rappeler que là, ce que je suis en train de parler, je parle de discipline spirituelle en fait, hein. Le jeûne, la prière, la repentance, toutes ces choses-là font partie de la discipline spirituelle. C'est pas ça qui va sauver. C'est pas ça qui sauve Daniel. Pardon. C'est pas ça qui sauve donc Daniel et ses amis. C'est pas ça qui nous sauve. La discipline spirituelle, elle va nous mettre en condition pour être transformés, pour être touchés par la grâce, pour être renouvelés, en fait, pour grandir. Voilà. Donc, en conclusion, je voudrais, cette partie, faire une remarque, c'est que cette sagesse exceptionnelle, au temps de Daniel, elle était réservée à ceux qui connaissaient vraiment Dieu, donc à ceux qui étaient juifs et qui connaissaient la Bible de façon exclusive, parce que les juifs gardaient leurs enseignements. Mais au moment de après la crucifixion, il y a le voile du temple qui s'est déchiré, donc qui est déchiré de haut en bas, et qui laisse visible ce qui ne se voyait pas. En fait, elle laisse accessible ce qui était avant réservé. Donc maintenant, on peut voir tout ce que Dieu peut nous offrir. Donc, après, visible, ça ne veut pas dire facile. Ça veut juste dire que c'est possible. Et je rappelle encore, c'est la foi qui sauve, pas les actes. Mais même si c'est la foi qui sauve, elle ne s'oppose pas à l'effort. C'est pour ça que Paul nous dit, Philippiens 3, verset 14, je cours pour remporter le prix de la vocation céleste. Donc on sait que courir, c'est difficile. Et on sait aussi, si on pratique, que remettre en question ses fondements personnels, c'est très très difficile. Voilà, donc la suite, chapitre 2, le rêve du roi Nebuchadnezzar. Chapitre 2, versets 31 à 44. Je ne vais pas demander à quelqu'un de le lire, je vais le faire parce que, à cause du micro, je ne sais pas si c'est enregistré. Donc ce sera meilleur pour le son. Au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer, en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa le pied de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, L'argent et l'or furent brisés ensemble. Ils devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il l'a remis entre tes mains. En quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme le fer, de même que le fer qui brise et rompt tout. Il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier, en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé de l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie pas avec l'argile. Voilà, donc comme dit dans le texte, la tête hein, en or, le texte dit c'est toi, c'est Babylone. C'est le premier royaume dont il est question. Donc ce qui est bien avec, comme c'est un texte qui a donc de 2600 ans, on a du recul pour savoir quels sont les royaumes justement qui arrivent après. Donc la tête en or, on retrouve aussi dans Ésaïe, chapitre 13, verset 19, et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière pâture des Chaldéens. Donc on sait que c'est Babylone qui est l'ornement, la couronne, la tête. Donc c'est Ésaïe, un texte qui a été écrit 200 ans avant Daniel. C'est comme si Dieu fait une prophétie sur une prophétie qu'il va faire dans 200 ans sur des choses qui ne sont pas encore déroulées de nos jours. La Bible est vraiment unique. Hein. La poitrine et les bras en argent, c'est l'Empire perse. Donc moins 636 à moins 331 avant Jésus-Christ, sous le règne de Cyrus. Et c'est la période du retour du peuple de l'exil. On trouve encore en Ésaïe, chapitre 44, verset 28, « Je dis à Cyrus, mon berger. » Là, c'est fort parce que même le prénom est cité 200 ans avant. « Il accomplira mes désirs. Il dira à Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. » Et donc, c'est vraiment la période où les Juifs reviennent de déportation et puis ils rebâtissent le temple et la muraille. Une remarque aussi, Cyrus, c'est le seul personnage de la Bible qui est cité et qui est appelé berger. C'est le seul non-juif à porter ce titre de berger de Dieu. On continue, donc on a les hanches en airain. On a l'Empire macédonien qui arrive après, moins 331 à moins 168 avant Jésus-Christ, avec le règne exceptionnel qu'on connaît d'Alexandre le Grand. Cette partie de l'histoire est intéressante aussi parce que Alexandre le Grand a répandu la langue grecque à travers une grande partie de l'Europe, de l'Asie, d'Afrique. Et puis cette langue grecque a servi ensuite à propager l'évangile. Comme quoi, tout est prévu, quoi. On arrive sur les jambes de fer, et on a l'empire qui suit, c'est moins 168 à plus 476, et c'est l'empire romain. L'empire romain, il a été séparé en deux. L'Empire d'Orient et l'Empire d'Occident. On peut remarquer qu'il y a deux jambes. C'est assez remarquable. Et puis, on a cette séparation qui est toujours d'actualité entre l'Orient et l'Occident, entre le matérialisme et la spiritualité. Il y a toujours cette opposition. Pour finir, on a les pieds qui sont en fait moitié d'argile et moitié de fer. Donc le pied fait quand même partie de la jambe. Mais cette histoire d'alliance humaine, ça ressemble vraiment à ce qui s'est passé après l'Empire romain, en fait. C'est les alliances qu'il y a eu entre les rois par mariage. Ils se mariaient tous en Europe, les rois, Autriche, France, Angleterre, etc., et Espagne. Et puis ils faisaient des alliances par mariage, et puis au point que, après la Première Guerre, la famille royale anglaise a dû changer de nom parce qu'ils portaient un nom allemand, et puis ça la faisait pas trop, quoi. Donc ils ont préféré se faire appeler Windsor. Donc c'est vraiment des alliances humaines. Et là, on n'est plus. Si on prend l'histoire, on n'est plus dans l'Empire romain, en fait. Hein. On a passé le Moyen Âge et tout ça. Mais on voit dans les pieds que c'est mélangé entre le fer et l'argile. Donc il y a encore une partie de fer. Donc il y a encore une partie de Rome. Ce qui voudrait dire qu'on est encore sous l'Empire romain, en fait. Mais pas d'un point de vue administratif, hein, absolument pas. Normal, mais d'un point de vue spirituel, on est comme toujours dans cette période de séparation Orient et Occident. Toujours dans cette organisation administrative qui était Rome, qui a inspiré Napoléon aussi, et d'autres. Après, j'ai lu une explication, bon, je vais vous la donner, mais elle ne me convainc pas. Après l'Empire romain, donc à la chute, en 476, il y a eu la naissance d'un nombre de royaumes, pour en citer quelques-uns, donc les Anglo-Saxons, les Francs, les Visigoths, les Souabes, les Vandales, les Germains, les Bourguignons, les Ostrogoths, les Lombards, les Hérules. Donc tout ça, c'est des peuples qui ont formé l'Europe. Hein. Donc si on veut faire mentir un peu les chiffres, on va dire, si on veut adapter, on peut dire qu'il y avait 10 nations qui représentent les 10 doigts de pied de la statue. Bon, pour moi, si on creuse un peu, il n'y avait pas exactement 10 nations, à mon avis, il y en avait beaucoup plus. Je pense que le chiffre 10 n'est pas à prendre comme le chiffre 10, mais il est à prendre comme ce qui symbolise. Dans la Bible, les chiffres symbolisent des choses et le 10 symbolise l'ensemble. Ce qui voudrait dire que l'Empire de Rome a donné naissance à l'ensemble des nations, qu'ils soient d'Orient ou d'Occident. Ça me semble être une explication un peu plus vraisemblable. Voilà, donc dans ce chapitre 2 du livre de Daniel, à la fin, Daniel devient donc gouverneur, chef des sages. Il a tout un tas de titres. On peut voir qu'il consulte Dieu. Il est comme un grand prêtre. Hein. Il a des visions comme les magiciens. Il est plus sage que les conseillers. Et puis là, on voit ensuite qu'il a plein de fonctions en plus au niveau de l'Empire. Et ce que Dieu a fait dans sa vie, c'est qu'il l'a béni sur tous les aspects de sa vie, en tout point. Et ça m'a rappelé un passage qui se trouve dans Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur vient pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et ce que Dieu fait dans la vie de Daniel, c'est qu'il le bénit en abondance. Et c'est ce que Dieu veut faire dans chacune de nos vies, c'est nous bénir en abondance. Et je parle pas d'argent, hein, bien sûr. Par de bénédiction humaine pour qu'on ait une vie riche. Alors on a tous besoin des épreuves pour grandir. On a tous besoin de connaître les limites. Et voilà. Pour cette partie, je voudrais juste vous dire que voilà, que Dieu veut nous bénir et il veut le faire en abondance. Chacun d'entre nous, il veut nous mettre dans une situation promotionnelle, même si c'est pas une promotion, c'est une situation qui est promotionnelle pour notre vie de tous les jours. Il est 5:30, est-ce qu'on a le temps pour voir une histoire avec une fournaise où on jette des gens dans le feu ou pas? D'accord. On va essayer d'aller assez vite. C'est dur pour moi. Donc, chapitre 3. Le roi Nebuchadnezzar fait une statue en or d'une hauteur de 60 coudées. Si quelqu'un a la traduction pour la hauteur, je ne sais pas. Je crois que ça doit faire 20 mètres. Le jour de l'inauguration, voici ce qu'il dit. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, du sambuc, du psaltérion, de la cornemuse et toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Bien sûr, accompagné d'un châtiment pour ceux qui ne le font pas. Donc quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. La suite de ce chapitre, c'est que les amis de Daniel ne se prosternent pas. Parce qu'ils ne se prosternent pas devant les statues d'or, parce qu'ils sont juifs. Ils sont alors dénoncés par les Chaldéens. Les Chaldéens, c'est ceux-mêmes qui ont été condamnés à mort lorsqu'ils n'ont pas réussi à interpréter le rêve et qui ont donc eu la vie sauvée par Daniel, et bien ceux-là même, ils vont aller balancer les Juifs en disant « Oh là, ils ne se prosternent pas ceux-là. » C'est la nature humaine, c'est charmant. En tout cas, donc ils font face à un danger mortel. Et puis, ils ont quand même l'air assez sereins. Est-ce que quelqu'un peut lire le chapitre 3, les versets 16 à 18 assez fort.
Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis, il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego de les jeter dans la fournaise ardente.
Donc, ils font face à un danger mortel. Ils répondent au roi, « Non, nous ne te servirons pas. Enfin, » s'ils ont un certain aplomb quand même. Parce qu'en fait, ils savent que Dieu peut les sauver. Il peut les sauver de toutes sortes de dangers. On a plusieurs exemples. Hein. On a, par exemple, le désert. Dieu sauve Agar et Ismaël. Puis après, il fait survivre un peuple pendant 40 ans. Dans le désert. Dieu peut sauver de l'eau aussi, de la noyade. Moïse qui est repêché. Et puis Jonas qui ressuscite 3 jours après s'être noyé. On a Jésus aussi qui marche sur l'eau et qui arrête la tempête. Il y a d'autres dangers, il y a les grandes armées aussi. On a des exemples, on a Gédéon, on a David qui font face à des ennemis puissants. Et puis la grande armée est mise en déroute par quelques hommes, parfois par un seul homme, parfois par aucun. C'est Dieu lui-même qui combat. Et donc, Dieu peut sauver aussi de la fournaise ardente et de la colère du roi. Parce qu'il est écrit dans Ésaïe encore, chapitre 43, les versets 2, « Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te fera pas mal. » Je suis en train de me dire, n'essayez pas cet après-midi. Et donc, dans la suite du texte, on voit aussi l'apparition d'un quatrième homme. Donc, l'histoire, c'est que les trois personnes sont jetées dans la fournaise et qui est chauffée sept fois plus fort, au point que même les gardes qui jettent les gens dans le feu ne supportent pas et meurent. Tellement le feu est chauffé à blanc, comme on dit. Et là, on voit les personnes qui sont dans le feu, il y a un quatrième homme avec eux, et puis ils ressortent. Sur l'ordre du roi qui les fait sortir. Et Nebuchadnezzar prit la parole et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Il a envoyé son ange, il a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. Ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et à risquer leur vie plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. » Et voilà. En conclusion, je voudrais aussi faire remarquer que les soldats sont morts. Ils étaient dans leur droit, ils faisaient leur travail. Mais ils étaient sous l'autorité du roi. Alors que les trois serviteurs de Dieu, eux, ont survécu. Et ce que je voudrais faire remarquer, c'est que si on se sent en sécurité mais qu'on n'est pas avec Dieu, on ne l'est pas. Et au contraire, si parfois on ne se sent pas en sécurité, mais si on marche avec Dieu, ben en fait on l'est, quoi. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Et puis je vous souhaite à tous un bon dimanche. Ensoleillé apparemment.